L'invité de cette deuxième heure, Hervé Temim. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos plus grands avocats pénalistes, défenseur de Bernard Tapie, dont le procès doit reprendre lundi, de Roman Polanski, de Jacques Servier, de Gérard Depardieu et de bien d'autres. Vous êtes également l'avocat de Thierry Herzog dans le procès dit des écoutes qui se tiendra au tribunal judiciaire de Paris à partir du 23 novembre, un procès dans lequel l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy sera également jugé. Et vous êtes l'auteur en cette rentrée d'un livre qui s'intitule « Secret défense » paru chez Gallimard et sur lequel nous reviendrons dans quelques minutes, juste après avoir parlé un peu d'actualité, si vous le voulez bien, Hervé Temim, puisque l'actualité dans le monde de la justice ces derniers jours, ces dernières semaines est extrêmement chargée. Le monde judiciaire est en émoi, les tribunes de magistrats et les motions de défiance pleuvent contre le ministre de la Justice après qu'Éric Dupond-Moretti a ouvert une enquête administrative visant trois magistrats du parquet national financier. Jeudi, l'association Anticor a déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, je cite, visant nommément Éric Dupond-Moretti. Et le même jour, c'est la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui a quant à elle demandé des précisions sur de possibles conflits d'intérêts au ministre de la Justice. Alors la question est simple, est-ce que selon vous, Hervé Temim, le ministre de la Justice, est en situation de conflit d'intérêts?
C'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Et surtout, je déteste m'ériger en juge. Je ne pense pas qu'il soit en situation de conflit d'intérêts. Par rapport à la question que vous me posez, c'est-à-dire à l'enquête administrative qu'il a ordonnée, je pense que néanmoins il faut que les choses s'apaisent, il faut que la situation évolue de manière favorable, car on ne peut pas être ministre de la Justice avec une telle hostilité des magistrats, et cette hostilité me paraît tout à fait excessive, car je ne crois pas que cette décision d'ordonner cette enquête administrative prise par Éric Dupond-Moretti porte atteinte à l'indépendance de la justice. En tant qu'avocat de Thierry Herzog, je vous réponds très franchement, en tant qu'avocat de Thierry Herzog, j'aurais autant préféré qu'elle ne soit pas ordonnée ou qu'elle ne soit pas ordonnée par lui. Parce que contrairement à ce que tout le monde dit, tout cela n'aide pas notre défense, bien au contraire. Dans la défense de Thierry Herzog, nous n'avons pas besoin du tout de désigner tel ou tel magistrat pour espérer obtenir la relaxe qu'il mérite. Il y a eu une enquête préliminaire qui a été ordonnée en parallèle de l'instruction qui était menée contre lui et contre Nicolas Sarkozy. Et cette enquête préliminaire, dans le fait qu'elle ait été ordonnée, dissimulée et dans son déroulement, est en soi tellement attentatoire au droit de la défense de Thierry Herzog que je n'avais rien à faire ni de la première enquête ordonnée par Madame Belloubet, faut pas oublier que c'est Madame Belloubet qui a ordonné la première enquête, ni de cette enquête administrative. Le rapport qui a été rendu par l'inspection de 129 pages, que personne n'a lu ou pas grand monde n'a lu, est un rapport qui, certes, sur la question dite des fadettes, disait qu'il n'y avait rien d'illégal, ce qui n'était pas pour moi une surprise, je dis bien pour moi, hein, même si c'est un regret que ce soit possible, mais en revanche sur tout le reste, tout ce qui importe dans la défense de Maître Herzog, c'est-à-dire le fait qu'on ait ordonné cette enquête et son déroulement, le rapport était en fait accablant, dans un langage feutré, qui est celui de ce type de rapport, mais de manière très claire, c'est un rapport qui nous confortait. Donc, Éric Dupond-Moretti, attention, n'a pas ordonné comme ça cette enquête préliminaire. Il a saisi le bureau de déontologie des services judiciaires de ce rapport, et j'imagine, je n'ai pas accès à ces éléments, que le bureau de déontologie a dû considérer qu'il fallait ordonner une enquête administrative, ce qu'il a fait. Voilà, maintenant, il y a eu un très bon article dans la journée du dimanche du professeur Jamin. Un ancien juge d'instruction a dit hier, je crois, dans Le Monde, ou avant-hier dans Le Monde, que dès qu'il avait été nommé, il avait été victime d'une fatwa, c'est pas moi qui le dis. Il est évident que cette hostilité manifestée à l'égard d'Éric Dupond-Moretti doit cesser.
Pour que le climat s'apaise,
oui,
vous dites
oui.
Vous-même. Quand même, l'association Anticor, il y a la question du règlement de compte, hein, selon l'association Anticor, que le garde des Sceaux userait de sa fonction pour régler des comptes avec les magistrats du parquet national financier qui l'ont espionné dans cette enquête lorsqu'il était avocat. Mais l'association pointe également du doigt l'amitié entre Éric Dupond-Moretti et Thierry Herzog, qui doit justement être jugé avec Nicolas Sarkozy en novembre. Et vous le rappelez, vous-même, Hervé Temim, anonyme. Vous défendez Thierry Herzog dans cette affaire et vous êtes vous-même, vous ne vous en cachez pas, c'est dans Secret Défense votre ouvrage, un très grand ami de Thierry Herzog. Est-ce que là, ça ne pose pas un problème, cette
Alors,
amitié
écoutez,
entre vous?
Je vais d'abord, je ne me cache pas de ces liens d'amitié, je les revendique. Et je pense qu'Éric Dupond-Moretti, sur un plan humain et institutionnel, a raison d'assumer aussi cette amitié avec Thierry Herzog.
Mais là, je parle de la vôtre.
Oui. Ah bah la mienne. Ah, vous parlez de la mienne?
Oui, je parle de la vôtre.
Ah, est-ce que la mienne pose un conflit?
Oui.
Bah écoutez, alors là, c'est une question intéressante, mais à laquelle dont que je traite pas sous l'angle du conflit. Bien sûr que non. Il n'y a pas de conflit d'intérêt à défendre un ami. Et il n'y a aucun problème déontologique à défendre un ami. Il y a un problème déontologique en ce moment très intéressant qui est posé à l'ordre, parce que figurez-vous qu'une victime avocate plaide pour la partie civile. Ça, ça pourrait poser éventuellement une question. Mais défendre un ami, ça n'est en rien un conflit d'intérêt. C'est un problème personnel que vous réglez ou pas. Parce que le manque de distance ou l'envie pressante que vous avez de défendre cet ami peut vous rendre meilleur ou moins bon. Mais c'est en rien un conflit d'intérêt. Vous savez, on voit des conflits d'intérêt partout aujourd'hui. Il faut quand même, on est dans un monde de fous. Votre question est très éclairante à cet égard. En quoi ce serait un conflit?
Moi, je parle plutôt du secret. Hervé Temim.
Ben,
je parle plutôt du secret, puisque dans ce livre, et j'ai pas encore donné le nom de votre collaboratrice dans ce livre, c'est
formidable.
Un livre écrit avec Marie-Laure Delorme, la journaliste. Vous regrettez dans ce livre Secret Défense que notre société ne considère plus le secret comme un droit, voire comme une obligation. Et vous plaidez pour le droit au secret et vous allez défendre un homme qui est lui-même soupçonné d'avoir tenté d'obtenir d'un haut magistrat des informations couvertes par le secret dans une procédure judiciaire. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction?
Laquelle?
Contradiction entre défendre le secret et aller défendre un homme qui aurait
soudoyé
un autre homme pour rompre un secret professionnel.
C'est que Thierry Herzog a été poursuivi pour un recel de violation du secret de l'instruction. Il a eu un non-lieu. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on ne lui reproche plus. Ensuite, imaginez que je sois, ce qui est le cas, très attaché au secret. En quoi cela m'empêcherait de vous défendre vous-même si vous étiez poursuivi pour une atteinte au secret? Attendez, l'avocat n'est pas la personne qui le défend. Et que vous soyez une amie ou pas, et Thierry Herzog est plus qu'un ami, je ne suis pas lui, il n'est pas moi. Si je défends un assassin, croyez-vous, qui reconnaît les faits, croyez-vous que je défende le meurtre ou l'assassinat? Si je défends un violeur, de la même manière, ça n'a pas de sens. Donc si vous voulez, c'est une... je sais bien que c'est ce que vous voulez me faire dire, je ne dis pas...
Ah, je veux rien vous faire dire, je pose une question.
Non, mais je... parce que... C'est tellement aberrant d'imaginer que l'avocat se fond dans la personne qu'il défend, que c'est pour ça que je m'exprime ainsi. Bien sûr que non. Il n'y a rien d'incompatible entre le fait d'être très attaché au secret et de défendre même quelqu'un qui passerait sa vie à le violer. L'avocat n'est pas celui qu'il défend. Et au contraire, hein, je pense que, par exemple, un avocat est amené à défendre des gens qui se comportent mal dans la vie. Un avocat n'est pas un médecin qui ne soignerait que des gens bien portants. Un avocat défend des gens qui ont besoin d'avocats. Et parmi les gens qui ont besoin d'avocats, il n'y a pas que des innocents. Il y a aussi des coupables. Et je soutiens l'idée que pour être un avocat, et pour être un bon avocat, j'espère que je le suis, il faut être au contraire très attaché au sens de l'intégrité, très attaché à la valeur de la non-violence, très attaché à la cause des victimes, quelles qu'elles soient. C'est pas du tout ce qu'on imagine un avocat. Un avocat, il parle à des gens qui sont comme vous, comme moi. Est-ce que vous pensez que si vous êtes juge, vous allez vous-même être très sensible à la cause des violeurs, des assassins, des gens qui violent les secrets, des malhonnêtes, des voleurs, des escrocs? Ben non! Vous êtes comme tout le monde, vous vous identifiez plutôt aux victimes, plutôt au bien qu'au mal. Donc si l'avocat est quelqu'un qui chausse les patins de ceux qui commettent les infractions quand ils sont coupables, qu'il défend, eh bien, il est à côté de la plaque.
Hervé Temim, vous parlez de ce métier d'avocat. C'est intéressant de parler du métier d'avocat en ce moment,
ouais.
Quand on voit à quel point, et vous le disiez vous-même, le climat est tendu, et pour un citoyen lambda comme je suis, pour un justiciable ouais. Également comme je suis, c'est très étonnant de voir ce qu'on pourrait presque qualifier de guerre entre magistrats et avocats. On a vu beaucoup de tribunes de magistrats, à part peut-être il y a quelques jours, même peut-être hier hier ou avant-hier une tribune collective signée par des avocats. Il y en a très peu eu des tribunes d'avocats. Comment expliquer, je sais pas, cette divergence de vue? Est-ce que c'est une divergence historique, culturelle? Est-ce que c'est toujours un rapport de force entre les magistrats et les avocats? Est-ce que le but n'est pas le même, c'est-à-dire faire respecter le droit, établir les faits, la vérité, faire œuvre de justice?
Les fonctions sont différentes, mais on converge vers un même but, vous avez raison. Votre question est très très juste, je pense que c'est la question essentielle qui se pose aujourd'hui à la justice. D'abord, s'agissant du défaut de tribune d'avocat, vous avez tout à fait raison. Je considère que les avocats ont été un peu trop taisants, mutiques dans cette période. Et j'en ai parlé, vous savez, j'ai créé l'association des avocats pénalistes. Donc on en a parlé au sein de notre association. Je pense qu'il y a aussi chez nous, chez les avocats, le sentiment d'être peu crédible à venir au soutien d'Éric Dupond-Moretti, qui est un des nôtres. Je regrette que sur des questions de principe, nous n'ayons pas été plus présents. Moi-même, je fais beaucoup de médias en ce moment parce que j'aime beaucoup ce livre que Marie Delors-Delors m'a beaucoup aidé à faire. Et je me mue un peu, malgré moi, en avocate Dupond-Moretti. Quand je dis malgré moi, c'est que, bien sûr, j'ai envie de le défendre, mais je pense essentiellement à la défense de Thierry Herzog. Et aujourd'hui, c'est mon seul but, c'est de me préparer à cette défense et de m'adresser aux juges qui auront à le juger, certainement pas, ni à l'opinion, ni aux magistrats qui sont en guerre à tort contre Éric Dupond-Moretti. Mais pour finir de répondre à votre question, les relations entre avocats et magistrats devraient être des relations de confiance. Ce sont des relations de défiance, a priori. La confiance, elle existe souvent, mais elle est l'exception. Et puisque vous m'avez fait l'honneur de lire mon livre, vous savez que moi, je défends beaucoup les magistrats dans ce livre. Je défends les juges.
Vous en parlez d'ailleurs des deux métiers.
Absolument. Hein, je le défends beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve que l'une des dérives de notre monde actuel, c'est la trop grande propension du jugement médiatique. Préjugement, jugement médiatique, souvent à l'emporte-pièce. Et je pense que le recours contre cette dérive, c'est l'application de la loi. Et qui applique la loi? Les juges. Donc on aurait tort de s'attaquer aux juges. Et je ne m'attaque, moi, pas aux juges. Jamais aux juges. Je considère au contraire qu'il faut rehausser leurs fonctions. Ça ne veut pas dire que la justice fonctionne bien, toujours bien. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des juges dont les comportements sont inacceptables. Et ça ne veut pas dire que les juges ou la justice devraient être la seule institution à l'abri des regards, ça elle ne l'est pas, ni à l'abri de rendre des comptes. Attention, il y a un peu ça quand même hein, chez les magistrats, et ça je pense qu'il faut qu'ils fassent attention à ça, ça va leur retomber dessus. Il y a un peu cette culture de la responsabilité, l'apostrophe de l'irresponsabilité, quoi que disent par ailleurs des gens aussi respectables que Monsieur Molins. Les juges d'instruction sont dans l'ensemble très peu responsables. Regardez le juge d'instruction de l'affaire Outreau, eh ben il a continué sa carrière tout à fait normalement, et voilà.
C'est dans une tribune à nouveau hein, sur france-tv.info.fr que la présidente du syndicat de la magistrature, Katia Dubreuil, hier s'est exprimée. Elle a dénoncé point par point 12 contre-vérités d'Éric Dupond-Moretti. Elle revient d'ailleurs sur ces condamnations aussi de magistrats auxquels vous faites référence. Et elle accuse le ministre de la Justice de détournement de pouvoir en pointant une crise institutionnelle. Ça va quand même très loin, cette crise institutionnelle. Vous partagez son sentiment en dehors du fait qu'elle soit magistrat, que vous êtes avocat. Il y a une crise institutionnelle judiciaire aujourd'hui en France.
Elle est aujourd'hui créée par des magistrats qui...
Voilà, vous attisez le feu en disant ça.
Non, mais je ne pense pas qu'il y ait il n'y a pas matière à crise institutionnelle. Il n'y a pas matière à crise institutionnelle, point. Alors maintenant, si des magistrats ou une grande partie de magistrats, je ne sais pas d'ailleurs, il faudrait sonder un peu, mais admettons même qu'il y ait beaucoup de magistrats. Si beaucoup de magistrats considèrent qu'il y a une crise institutionnelle, qu'ils disent ce qu'ils veulent alors. Ils veulent quoi? Que Dupond-Moretti démissionne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors qu'ils protègent, et ils ont bien raison, l'indépendance de la justice, elle est absolument fondamentale, et qu'ils reprochent aux gardes des Sceaux de violer la règle de la séparation des pouvoirs, ce qui me paraît tout à fait aberrant, eh bien eux-mêmes la violent. Ils veulent choisir leur ministre. Il ne voulait pas de Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. Et là, ils se saisissent de cette raison, qui n'est pas qu'un prétexte, pour créer une crise institutionnelle. Non, je pense que les choses doivent s'apaiser et je pense que le dialogue doit être renoué. J'ajoute, pardon d'être long, j'ajoute qu'il y a en ce moment une enquête qui pour moi est secondaire. Mais enfin, vous imaginez la pression sur les magistrats qui enquêtent là aujourd'hui ? Il faut nous dire, hein. Il faut nous dire aussi si au procès Bismuth, il sera possible pour les magistrats de délibérer sereinement. Je trouve que là, il y a quelque chose d'excessif. Et tout ce qui est excessif est insignifiant.
Hervé Temim, avocat pénaliste et notre invité ce matin, on vous retrouve d'ici 3 minutes, juste après la revue de presse des idées du samedi matin. Hervé Temim, la judiciarisation de la littérature et peut-être plus largement la judiciarisation de la vie sociale, c'est l'un des sujets de Secret Défense. Vous en dites quoi, vous ?
Alors, à titre personnel, c'est difficile d'être moins procédurier que moi. Je n'ai jamais porté plainte de ma vie, même pas devant le bâtonnier, jamais fait une action. Je suis pas très favorable à cette judiciarisation. Il faut faire attention à cette judiciarisation, à ces excès. Je pense que le droit est évidemment, le respect du droit est quelque chose de fondamental. Et c'est un mécanisme de régulation absolument nécessaire au bon fonctionnement de toute société démocratique. Maintenant, je pense que la judiciarisation excessive, elle nuit beaucoup, souvent y compris à ceux qui l'actionnent. Alors, dans la matière pénale, je trouve que il y a une espèce de propension trop grande, très française, parce que la judiciarisation n'est pas du tout un phénomène français, c'est un phénomène d'ailleurs importé des États-Unis. Mais il y a par contre une propension très française aujourd'hui à pénaliser absolument tout fait dramatique, toute catastrophe collective, tout scandale. Et je pense que la justice pénale n'est pas nécessairement le meilleur endroit où on doit essayer de réparer ou de discuter de ces questions.
Vous le regrettez, en même temps, ça peut faire un peu plus de travail pour le
avocat. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est peut-être parce que quand on est avocat, il faut être maso et que je le suis jusqu'au bout. Mais vous savez, mes collaborateurs ou mes associés me le reprochent souvent. Je déconseille très souvent, dans les affaires qui pourraient être très importantes, à des gens de porter plainte, à des grosses sociétés de porter plainte, à des particuliers de porter plainte. Je pense qu'il faut être responsable quand on est avocat, autant qu'on peut l'être, et être responsable, c'est aussi essayer un peu d'anticiper sur ce que peuvent être les conséquences d'une procédure et je ne suis pas persuadé que le recours à la justice pénale soit toujours une bonne solution.
Hervé Temim, aujourd'hui c'est la journée européenne contre la peine de mort. Votre livre Secret Défense commence par ce rapport que vous avez à la peine de mort puisque vous écrivez qu'une des raisons pour lesquelles vous êtes devenu avocat, c'est de pouvoir sauver des vies.
Oui, c'est probablement la première raison, la plus forte raison. J'ai eu la vocation, j'ai eu la chance. C'est une chance extraordinaire d'avoir une vocation aussi forte, aussi jeune, et puis de vieillir avec un goût toujours aussi profond pour son métier. J'ai la vocation de ce métier vers 13 ans. Quand j'avais 13 ans, c'était les années 70. Donc la période 70-80, c'est une période qui a été très très riche en débat et surtout en procès avec la peine de mort encourue. Mon idole absolue, c'était Émile Pollack, un avocat marseillais extraordinaire. Et puis, bien sûr, j'ai suivi avec passion le combat, le parcours et le combat de Robert Badinter depuis l'affaire Buffet-Bontemps jusqu'à l'affaire Patrick Henry. Puis alors, au fait qu'en tant que garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti vient de le recevoir. Je l'ai lu dans un journal hier qu'il a fait abolir en tant que garde des Sceaux. Et oui, j'avais une libido très faible quand j'étais un jeune adolescent parce que je rêvais la nuit de sauver. Je rêvais toutes les nuits de sauver des têtes, de plaider, de sauver des têtes. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'entendre plaider Robert Badinter contre la peine de mort. Je l'ai entendu plaider. Et c'est un souvenir qui ne s'est jamais effacé de ma mémoire. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai des frissons. Je dis dans mon livre que les avocats de ma génération sont moins intéressants que ceux de la génération qui nous a précédés. C'est, je le crois vraiment, en partie parce que nous n'avons pas connu la douleur terrible et la responsabilité énorme d'accompagner quelqu'un à la guillotine.
Vous pensez que c'est moins intéressant de sauver des puissants, parce que souvent on vous présente, d'ailleurs vous dites dans le livre que vous ne reniez pas cette appellation comme l'avocat des puissants, donc c'est moins intéressant de sauver des puissants de la prison que de sauver des têtes?
C'est même pas comparable, il n'y a pas l'enjeu.
L'enjeu n'est pas le même.
Absolument.
Vous savez, le travail en lui-même d'avocat.
Le travail en lui-même, et le travail que je fais est passionnant. Ça reste le travail d'un pénaliste de base, celui que j'ai commencé à être commis d'office en 79. Vous savez, je lutte pas contre cette étiquette. Pourquoi? Parce que d'abord, je défends des puissants, et parce qu'en plus, je dis que lutter contre sa propre image, encore que la mienne soit, je suis pas si connu que ça, c'est déjà trop s'intéresser à soi-même. Mais croyez-moi, je ne défends pas que des puissants, mais j'en défends.
Ça aussi, vous le dites.
J'en défends, bien sûr.
Et vous défendez surtout le secret.
Ah oui.
Ça, le secret, vous y tenez mordicus, j'ai envie de dire. Parce que pour vous, le secret doit être défendu et gardé. Alors, en toutes circonstances, il n'y a pas des moments où le secret peut faire du mal, parfois?
Ah ben bien sûr, d'ailleurs, vous savez, moi je suis hyper sensible au secret, mais pas seulement au secret professionnel, loin de là.
Secret privé aussi.
Secret privé, très, très. Si vous m'envoyez un texto privé que vous avez reçu, si vous me le transférez, vous êtes sûr que je vous dirai plus rien d'autre que bonjour. Non, j'aime pas les gens, et voilà, je vous parle pas là. C'est sa vocation à rester secret. Je suis très sensible à ça. Maintenant, j'évoque une affaire. Vous avez raison. Le secret, ça peut être terrible à porter.
Ça
peut être dévastateur, absolument. Et ça peut être extraordinaire de s'en libérer. J'évoque l'affaire Agnolet avec le fils Agnolet qui a enfin livré le secret de famille qui étouffait cette famille depuis des années. Et puis là, je viens de faire une petite tribune dans le Figaro. Je le dis. Il y a des secrets mortels comme le secret qu'on demande de garder à la victime d'abus sexuels, à l'enfant. Mais bien sûr, non, attendez, il y a des secrets mortels dont il est bon de sortir. Alors maintenant, je vais vous dire autre chose aussi, mais ça c'est l'expérience, peut-être l'âge. J'ai connu des situations dans ma vie et dans mon métier où des hommes, des femmes s'en sont sortis par le déni. C'est-à-dire que je vous garantis, c'est très étonnant. Par exemple, quand une jeune femme victime d'abus vient vous voir, évidemment que elle pense souvent qu'il faut porter plainte. Et moi, je lui conseille de le faire dans la quasi-totalité des situations. J'ai vu des cas dans lesquels la justice a été dévastatrice pour certaines femmes. Et je connais des cas dans lesquels je parle de cela parce que c'est des cas dont j'ai parlé aussi avec des experts psychiatres, avec des psychiatres, avec des psychologues, dans lesquels, non pas le secret, mais le déni a été une meilleure arme que le fait de sortir du secret. Mais il y a des secrets mortels.
Oui, c'est ça, on n'est peut-être pas obligé de l'ériger en système. Il y a tous les cas, Hervé, vous êtes bien placé pour le savoir.
Ce dont je viens de vous parler est l'exception.
C'est ça.
Il y a des exceptions rares. Bien sûr, il y a des secrets mortels.
Je voudrais vous citer un autre avocat qui est William Bourdon à propos du secret. Il écrit « Le secret professionnel des avocats est un sanctuaire indispensable pour protéger la confidentialité des conversations avec nos clients, mais, ajoute-t-il, il n'est pas absolu quand il sert de couverture à des actes gravement contraires à la loi. »
Vous êtes en désaccord avec ça ? Il enfonce une porte ouverte. Il enfonce une porte ouverte. William Bourdon est un avocat que je connais bien, mais lui, c'est un avocat militant. Et notamment, très fortement contre... Il a une position très particulière, par ailleurs, par exemple, par rapport à... Chez les avocats, par rapport à l'affaire Bismuth, par exemple, dite Bismuth. Non, mais attendez, la loi, est-ce que vous pensez que les avocats sont à l'abri... sont des gens qui sont dans l'impunité totale? Bien sûr que non. Évidemment que le secret a des limites. Si l'avocat commet une infraction, il est normal qu'il puisse avoir à rendre des comptes et que son secret ne puisse pas le protéger.
Je ne pense pas qu'il fasse allusion à ça, pardonnez-moi. Je pense qu'il fait plutôt allusion à l'intérêt public. C'est-à-dire des moments, des cas où l'intérêt public est supérieur aux intérêts privés. Alors, et donc où le secret peut être lâché pour l'intérêt général.
Eh bien là, si c'est ça à quoi il fait allusion, je suis en désaccord total avec lui-même.
Alors pour quelle raison ?
Pour une raison extrêmement simple, c'est que le secret est une valeur qui est supérieure à tout autre dans l'exercice de notre métier. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas me délier du secret. Le secret n'est pas fait dans votre seul intérêt. Je suis moi tenu au secret, c'est-à-dire que il ne m'abrite pas. Je dois le respecter. Le secret existe pour respecter l'intérêt supérieur de la justice. Et je ne peux pas violer le secret professionnel au nom de l'intérêt public. Non, je ne peux pas le faire. En tant qu'avocat, je ne peux pas le faire. Et je ne pense pas, je connais bien William Bourdon, et j'ai des échanges très intéressants avec lui, je ne pense pas qu'il considérait que, par exemple, un avocat qui apprendrait dans l'exercice de son métier, qui aurait des informations, qui pourrait avoir un intérêt public, devrait les divulguer. Je ne pense pas qu'il voulait dire ça.
Éric Dupond-Moretti, pour revenir un instant à lui,
une obsession,
a dit... Non, absolument pas, c'est qu'il est dans l'actualité en ce moment.
J'écrirai un livre sur lui.
Il a donné un entretien aux Parisiens en début de semaine, dans lequel il dit « La publicité des débats est une garantie démocratique et c'est la raison pour laquelle il propose de filmer les procès. » Alors vous qui êtes si défenseur du secret et si contre la transparence,
qu'est-ce que vous pensez de cette idée de filmer les procès? Je suis pas du tout contre la transparence. Je dis que le droit de savoir n'est pas le droit de tout savoir. Et je suis défenseur du secret. Mais je suis défenseur du secret dans la vie privée et du secret professionnel. Je ne suis pas pour que les audiences aient lieu à huis clos.
Je suis
défenseur de la plus grande publicité des débats. La justice doit être totalement publique et sur la place. Je suis pas fou.
Il y a des débats, sur la question. Par exemple, certains pensent que ça porte atteinte à la vie privée des témoins et à la présomption d'innocence de filmer les débats. Donc c'est compliqué, encore.
C'est très compliqué. Et j'ai d'ailleurs entendu, je crois, dans votre émission, un commentaire très intéressant là-dessus, parce que c'est un sujet qui faisait pas consensus par un éditorialiste. Mais peu importe. Oui, je dis que c'est une bonne idée, mais qui n'est pas du tout mature pour l'instant. Il faut en discuter. Je suis favorable dans le principe, mais quoi diffuser, quand diffuser, etc., etc. C'est compliqué. Non, je suis d'accord. Mais attendez, par contre, je suis totalement favorable à la publicité des débats et à la plus large publicité des débats. Sauf huis clos nécessaire, par exemple, les affaires portant sur des mineurs, là c'est la loi, ou porter atteinte à la vie privée de victimes.
Hervé Temim, le temps médiatique, comme vous le savez très bien, n'est pas le temps judiciaire. Il passe très très vite. Il est 8h46 sur France Culture. C'est donc le temps d'entrer dans le dernier quart d'heure de ces matins du samedi. Et oui, déjà, il est 8h46, c'est l'idée culture.